Tchatch, le ravi, Radio Grenouille.
Bonjour, c'est l'heure de la Grande Tchatch, le rendez-vous politique du journal Le Ravi, en partenariat avec Radio Grenouille. Bonjour Michel Guéraud.
Bonjour Rafi Amal.
Avec nous pour cette émission, Maurice Dinocera, vice-président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, adjoint au maire de Marseille et candidat aux législatives 2017 dans la 5e circonscription des Bouches-du-Rhône.
Non.
Vous levez déjà
non.
la main, vous êtes candidat
non.
à la candidature.
Je ne suis pas candidat encore aux législatives.
On en reparlera tout à l'heure, c'est tout l'objet même de cette émission. Donc, on verra également sous quelle étiquette vous prétendez, si vous prétendez à la législature. Donc, nous verrons ça tout à l'heure. Bonjour Maurice Dinocera.
Bonjour.
Vous l'aurez compris, on va parler des présidentielles, de la droite, du centre et de Macron, mais aussi des législatives et du territoire. Mais auparavant, Maurice Dinocera, une tradition dans cette émission, c'est le portrait de l'invité et c'est Michel Guéraud qui s'y colle.
L'heure est grave. Fillon, le candidat républicain mis en examen, est formel. Le président instrumentalise la justice à la tête d'un cabinet occulte. Et l'héritière d'un démagogue milliardaire d'extrême droite, financé par la Russie, est aux portes du pouvoir. Pour faire face, il nous fallait un champion hors norme. Un élu capable de franchir avec le sourire tous les obstacles. Un coureur de fond à la hauteur de n'importe quel événement. J'ai nommé Maurice Dinocera. Que les jeunes inconscients qui s'apprêtent en ricanant à éteindre leur radio numérique reprennent leurs esprits. Un peu de respect, petit con, pour celui qui a débuté sa longue marche avant l'invention de l'AFM. Alors que Macron n'était pas encore né, oui. En 58, vous entrez au Provençal, l'ancêtre de la Provence, en inventant l'ubérisation de l'économie. Vous y commencez en effet votre carrière comme coursier. 10 ans plus tard, en 68, quand d'autres jettent sur la police des pavés, vous voilà déjà chef de publicité du quotidien régional. Et en 81, vous êtes propulsé directeur commercial, fonction que vous occupez durant 20 ans. Mesdames et messieurs, nous recevons donc aujourd'hui le Jacques Séguéla, marseillais. Et à voir la montre que vous avez au poignet, je crois que là, non, je la vois pas. Je peux garantir qu'à 73 ans, vous avez réussi votre vie. Votre success story professionnelle débute sous l'œil bienveillant du patron du Provençal, un certain Gaston Defer, maire socialiste de Marseille. Le démon de la politique vous saisit à la quarantaine où vous débutez comme conseiller municipal à Allo. C'est Robert Vigouroux, le maire d'Hivergauche, qui vous offre en 89 votre premier mandat marseillais en charge de la communication. Mais nous le disions, vous êtes un champion. Les maires se suivent de gauche, du centre, de droite, et vous êtes toujours en poste. Du côté des gagnants, bien entendu. Depuis 2014, vous êtes l'adjoint de Jean-Claude Gaudin en charge des grands événements et des grands équipements. Et depuis 2015, au conseil départemental, vous êtes le vice-président délégué au sport de Martine Vassal. Un confrère vous a attribué la médaille de l'élu le plus photographié de Provence. C'est que de club en rencontre sportive, d'inauguration en remise de décoration, votre agenda est plus chargé que celui d'un sénateur-maire. Dinocera, c'est donc un immense sourire, un peu comme celui du chat d'Alice. Mais au pays des merveilles politiques, il faut toujours se méfier des dentitions étincelantes. Et oui, car vous venez de rappeler avec fracas que vous savez mordre. En retrait de l'UDI, vos amis vous taxent de dissident parce que vous refusez de retirer votre candidature dans la 5e circonscription de Marseille où Gaudin a parachuté son dauphin, Yves Morel. Et vous appelez maintenant à voter Macron. En voilà un grand événement, c'est sûr, il va y avoir du sport.
Maurice Dinocera, un commentaire à ce portrait à la sauce ravie, bien sûr.
Parfait, parfait. Si je dure longtemps en politique, c'est peut-être que je ne suis pas très mauvais.
Et pour la montre, on peut avoir affirmation, confirmation, elle est grosse.
C'est une Rolex, non?
J'ai pas de montre.
Voilà, c'était juste un canular.
Je n'ai jamais de montre, d'ailleurs.
Voilà, c'était un canular. Macron, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous aussi, vous voilà séduit par ce jeune homme.
Alors,
ambitieux jeune homme.
Séduit. Le mot est peut-être un peu fort. En ce qui me concerne, j'ai des valeurs du centre. Je vous rappelle que depuis 1995, je suis un centriste. J'ai adhéré au Centre démocrate sociaux en 1995, qui est devenu ensuite la nouvelle UDF,
oui.
Puis ensuite le Force démocrate qu'avait lancé François Bayrou. Ensuite, c'est devenu le MoDem qu'avait relancé François Bayrou. J'ai donc été, je suis centriste de ce fait depuis 1995. Et je tiens à vous rappeler que je suis toujours dans ma logique, puisqu'aux deux dernières élections présidentielles, 2007 et 2012. J'ai fait voter et j'ai voté François Bayrou, que j'ai soutenu. Pour ce qui concerne ces élections, le contraire aurait été effectivement différent. Si j'avais fait à voter pour un candidat de droite, on m'aurait peut-être reproché de passer de droite au centre. Mais là, on ne peut pas me reprocher de passer du centre au centre.
D'accord. Alors avant d'arriver et de rentrer plus en détail dans ce choix qui semble avoir été mûrement réfléchi, comme vous nous l'expliquez, justement, qu'est-ce qui vous rapproche? Quels sont les points qui vous semblent séduisants? C'est ce candidat qui se présente comme anti-système. Vous, qui avez 70 ans aujourd'hui, vous êtes également anti-système, c'est ça?
Oui, il a dit ni gauche ni droite.
Oui.
Il reprend un peu le discours de Borloo, qui était celui de dire il faudra que la famille centriste et la gauche un jour se rassemblent. Ensuite, il a un discours qui est un discours de rassemblement. Et puis...
Il ne rassemble pas tout le monde non plus. Il a son propre discours.
Il rassemble beaucoup de monde. Alors, n'oublions pas que parmi les gens qui l'ont suivi, il y a l'ancien ministre de UDF.
Là, ça m'échappe.
Ça va vous arriver de suite. Il y a...
Le ministre de la Justice, non?
Non. Le ministre du Budget... de UDF
on va retrouver son nom, on en reparle tout à l'heure.
Il y a Douste Blasi qui l'a rejoint, il y a aussi Père Ben qui était quand même le ministre de Jacques Chirac, il y a même le petit-fils de Jacques Chirac qui l'a rejoint.
Bon, donc
ça voyez que c'est ni droite papale, ni gauche. Hein,
ça lui donne une espèce d'immunité papale à vos yeux, quelqu'un qui est capable de rassembler au-delà.
Voilà, ça donne peut-être l'idée que le rassemblement peut se faire autour de M. Macron.
Alors, quand même, à droite, et pour le coup, ils ont peut-être raison, vos amis de droite, vous êtes de droite et de gauche.
Non,
vous
je suis centriste.
Partout, centriste, d'accord.
Enfin,
pas comme Macron, alors. Pas de droite et de gauche.
C'est pas le centre de Baillet non plus, non. Votre centre.
Donc à droite, on fait remarquer à juste titre que quand même ce Macron, il est un peu la créature de François Hollande. Il était le ministre de l'économie de la mandature sortante. Comment il peut incarner le changement, un changement que les Français semblent quand même appeler de leur vœu?
Dans son discours, dans son programme, on voit le changement. Quand on regarde on ne va pas détailler tout son programme, parce que ce serait très long et peut-être que l'heure impartie serait largement dépassée. Mais je tiens à vous rappeler malgré tout qu'il a un programme qui est quand même assez évolutif et qui permet une relance de l'économie et aussi d'éviter de faire payer les plus difficiles.
Oui. Le fait qu'il ait été parrainé essentiellement à 50% par des élus de gauche ne vous gêne pas pour ce
rassemblement? Non, s'il y a 52% des élus de droite qui le parrainent, ça fait 100.
C'est un peu moins en fait, c'est 30 je crois.
Maurice Dino Serra, comment critiquer aujourd'hui, puisqu'on est en pleine campagne présidentielle, comment critiquer le quinquennat de François Hollande en adhérant à en suivant un de ses ministres, et pas des moindres, M. Macron?
On peut dire la même chose de M. François Fillon.
Il n'a pas été ministre de François Hollande.
Il était ministre de M. Sarkozy.
Oui.
Pas tout est bon, tout est mauvais.
On se positionne par rapport au dernier quinquennat. On se positionne pas.
On se positionne par rapport à la personne, non pas au ministre. Ce n'est pas parce qu'il n'a été ministre de M. Hollande qu'automatiquement il doit porter tous les péchés de M. Hollande.
Sa jeunesse, vous qui avez baroudé en politique, est-ce que vous pensez que les Français sont prêts aujourd'hui à donner les clés de la présidence de la République à un élu si jeune?
On le verra.
Écoutez,
je ne suis pas Madame Soleil, on le verra.
Mais vous pensez que c'est...
Moi, je pense que c'est un renouvellement politique et qu'effectivement, peut-être que les Français souhaitent aussi un changement beaucoup plus radical avec quelqu'un de jeune, d'efficace, et quelqu'un qui sait réunir tous les camps et qui permette aussi... d'avancer, peut-être que notre pays en a besoin.
Le centre, on parle d'une malédiction du centre, justement. Alors vous qui connaissez bien cette famille politique-là, et pour cause, hein, on parle d'une malédiction du centre en France, avec une bipartisation du débat politique, avec beaucoup de gens qui se sont cassés les dents, et François Bayrou en premier, qui s'est présenté plusieurs fois, qui a échoué. Là, quelque chose est prêt, la donne est favorable.
Je pense que le centre, en dehors de Giscard d'Estaing qui avait été élu, hein, je pense que le centre est une force d'appoint indispensable qui permet de modifier, de changer aussi dans beaucoup de choses dans le pays et dans les programmes. Et je pense que l'apport des centristes et d'autres personnes chez M. Macron permettra de donner une philosophie politique peut-être beaucoup plus centriste et intéressante.
Mais Maurice Di Nocera, on n'est pas dans un conseil municipal, là, je veux dire.
Non, on n'est pas dans un conseil municipal.
Où l'envoi des cohabitations, où la couleur politique finalement n'a pas beaucoup, beaucoup d'importance. Là, vous avez quand même, vous allez soutenir des gens comme Robert Rue, M. Le Drian, ministre de la Défense de François Hollande, Robert Rue, ancien communiste.
Je ne vais pas soutenir Robert Rue, je vais soutenir M. Macron.
Oui, mais enfin, vous allez vous soutenir à côté de Robert Rue.
Si toutes les classes politiques, les partis, certains souhaitent adhérer dans un programme qui est celui de M. Macron, c'est déjà un avantage considérable. C'est par là qu'aussi bien à droite, à gauche, au centre, à l'est et à l'ouest, on aime bien cette forme de programme, cette forme de candidat.
Alors rappelons quand même que l'UDI soutient M. Fillon. Oui. L'UDI, c'était votre ancien, votre parti. Vous êtes mis vous l'avez mis en parenthèse un peu votre.
Je me suis mis en congé de l'UDI parce que, pour la bonne raison, c'est que je ne pouvais pas, en ce qui me concerne, tout en ayant pour l'UDI et le président Lagarde beaucoup d'amitié et beaucoup de considération, je considère que je ne pouvais pas soutenir M. Fillon pour plusieurs raisons.
Alors, dites-nous un peu lesquelles.
Je pense que sa droitisation m'exaspère un peu. Et puis, n'oublions pas aussi que...
Enfin, vous ne la découvrez pas, cette droitisation où il y a eu Sarkozy
Non, mais attendez, j'ai pas soutenu Sarkozy. J'ai soutenu Alain Juppé pendant les primaires. D'accord. C'est clair ? J'ai soutenu M. Juppé. Ensuite, c'est M.
Qui était ministre de Sarkozy.
Qui était aussi ministre de M. Chirac. Oui. Hein ? Je soutiens M. Juppé. Là-dessus, M. Juppé est battu par M. Fillon. C'est bon ? Ensuite, discussion... Je vois que la philosophie demandée, faite par M. Fillon, ne me convient pas du tout parce que je considère que ce n'est pas dans mes gènes centristes. Qu'est-ce que je fais ? Je quitte, voilà, je dis non, voilà, c'est tout.
Est-ce que vous pouvez nous dire un ou deux exemples de cette droitisation qui vous dérange ?
Le dernier, c'est Charles Millon.
Mm-hmm. Charles Millon qui est devenu un soutien à nouveau, voilà, qui est sorti de sa retraite politique pour soutenir...
Là, je dis quelqu'un qui a négocié avec le Front National, n'est-ce pas ? Pour les régions, vous en rappelez. Je trouve que c'est moi qui suis un combattant...
Maurice Di Nocera, pour ceux qui ont un peu de mémoire dans cette ville, il en reste quand même quelques-uns. Vous avez toujours, et vous soutenez encore Jean-Claude Gaudin.
Je soutiens Jean-Claude Gaudin parce que c'est un bon maire.
Jean-Claude Gaudin a soutenu et a même amené à lui M. Simon Pierry, l'ancien maire de Marignane, Front National.
C'est lui ou c'est l'autre qui est venu ?
Attendez, c'est la même chose. Là,
attendez.
Vous parlez de millions, Simon Pierry, plus proche de nous.
Non, mais qu'on soit bien clair. On parle de politique nationale, d'accord ? On parle de M. Fillon.
Ce qui serait vrai au niveau local ne l'est pas... ce qui serait acceptable
au niveau
local
n'est pas acceptable. Vous avez vu comment combat le Front National, M. Gaudin, au conseil municipal ? Vous y êtes au conseil municipal ? Moi, depuis que je suis élu avec M. Gaudin, depuis 1995, jamais M. Gaudin n'a laissé la moindre espace au Front National.
Il a juste géré avec eux la région avant 1995.
Je parle de 1995. Moi, je suis élu avec lui depuis 1995. On est clair ? Et M. Gaudin fait le travail formidable dans cette ville. Et j'ai beaucoup de considération pour Jean-Claude Gaudin. Là-dessus, je vois à tous les conseils municipaux que M. Gaudin met une barrière entre notre politique et celle du Front National. Et je le vois, et vous le voyez vous aussi. Alors il n'y a pas de raison que je suspecte M. Gaudin de quoi que ce soit. Au contraire, j'ai pour lui beaucoup d'admiration et beaucoup de considération.
Donc vous dites qu'il a tiré les leçons d'une erreur qu'il a faite en...
J'en sais rien. Je parle de 95, je suis élu avec lui depuis 95. C'est là que je regarde.
Donc la vie débute, le monde débute en 1995 pour Maurice Di Nocera.
À 95, quand je suis avec M. Jean-Claude Gaudin, il se comporte de façon exemplaire. Il n'y a pas de raison à ce que je fasse la moindre critique là-dessus.
Le Front National, c'est pour une première fois, on annonce sa candidate au second tour avec une avance dans les sondages qui laisse à penser que sa parole.
Incroyable.
Quel regard vous portez là-dessus ?
Je trouve que c'est incroyable. Vous savez, j'ai été un des rares élus dernières élections législatives.
Ne pointez pas du doigt.
Donc, on ne voit pas. Je disais, avoir demandé à voter pour la candidate de gauche mieux placée, qui était Mme Andrieux à ce moment-là, contre M. Ravier. J'ai pris mes responsabilités. Il n'y a pas beaucoup d'élus de droite, d'ailleurs, qui, à ce moment-là, ont pris cette position.
L'élection de ce sénateur maire de secteur Front National à Marseille est une faute. On a laissé faire, selon vous, et le
une
Parti
grosse
socialiste...
faute de la gauche. Mm-hmm. Énorme faute de la gauche. Parce qu'à ce moment-là, il fallait, comme cela a été fait pour la région, il fallait que la liste se retire de façon à ce que le Front National ne soit pas maître de ce secteur.
On assiste quand même aujourd'hui... pour en revenir à la région, à la ville et même au niveau national, à une victoire des idées du Front National. Elle se banalise beaucoup plus. Vous le ressentez, vous ?
À la région ? Je ne suis pas à la région.
Oui, enfin, dans la région, vous le sentez quand même. Vous connaissez le président de la région.
Oui, bien sûr. Bien sûr.
Il a évolué hein, sur la question. Alors, on ne sait pas très bien où il en est à l'heure. Vous n'avez pas de monde, donc... Mais il a évolué, c'est-à-dire qu'on l'a connu assez proche des idées du Front National, pour peut-être, en espérant pouvoir récupérer des électeurs qui s'étaient égarés vers l'extrême droite. Puis on l'a entendu dire aussi que plus la droite courait après les idées du Front National, et plus ça renforçait le Front National. Et puis on ne sait plus très bien maintenant où il en est.
Enfin, ça c'est son problème. Et puis moi, je dirais une parole de chanson de Brassens, mourir pour des idées d'accord, mais de mort lente.
Revenons un peu à ces primaires qui se déroulent, à ces élections présidentielles qui vont devancer les législatives. Citez-nous une ou deux idées qui vous paraissent importantes dans le programme de M. Macron et que vous souhaitez voir se réaliser.
Mais il y a le lancement de l'économie, il y a...
Enfin, tout le monde souhaite le lancement de l'économie.
Ouais, mais c'est déjà pas mal de relancer l'économie.
Y compris M. Mélenchon souhaite le relancer à sa manière.
Il y a une mesure aussi qui me paraît très intéressante, qui n'a pas plu au maire d'ailleurs. C'est la suppression de la taxe d'habitation.
Oui.
Ça n'a pas plu à la plupart des maires, puisque ça leur enlevait finalement une somme. M. Macron a dit lui-même qu'il remettrait dans le jackpot, mais qu'il tenait à supprimer la taxe d'habitation pour 80% environ des personnes.
Et ça vous séduit? Vous pensez que c'est important?
Je pense qu'effectivement, la taxe d'habitation, c'est un impôt qui est parfois très difficile à gérer pour les gens qui n'ont pas les moyens.
Alors, venons-en maintenant aux législatives. Vous êtes élu dans cette ville depuis très longtemps, vous l'avez dit, depuis 1995.
J'ai gagné tous mes combats.
Vous avez gagné tous vos combats. Il y en a un que vous souhaitez mener aujourd'hui, à plus de 70 ans, c'est celui des législatives.
Non, je n'ai pas dit ça.
Comment
ça
va ?
Ma priorité, c'est la présidentielle.
D'accord. Vous souhaitez soutenir le candidat Macron pour les présidentielles.
Après, on verra.
Comment ça, après, on verra, vous avez fait des déclarations dans la presse.
Oui, je suis,
10 ans, je
suis
je
candidat
les ai sous les yeux.
À la candidature.
Candidat
d'accord.
À la candidature.
Bon. Là-dessus, il faut être honnête aussi avec son parti ou la société avec laquelle vous allez. J'ai pris acte d'aider M. Macron, de soutenir M. Macron. M. Macron ensuite prendra les dispositions pour désigner des candidats aux législatives. Et à ce moment-là, nous verrons ensemble.
D'accord.
Alors arrêtons-nous juste sur cette désignation. On va revenir sur les raisons de votre candidature à la candidature. Macron parle de la nécessité de renouveler le personnel politique.
Et la raison.
Vu votre background politique, vu votre parcours, vous ne vous sentez pas un peu menacé par rapport à ce type de discours ?
Je ne me prends pas, j'en ferai pas malheur. J'en vais pas tourner l'eau.
Certains de vos amis ou de vos anciens amis vous ont même critiqué le week-end dernier en citant votre âge avancé, 70 ans, qu'en 70 ans, on représente un renouvellement.
Je leur ai rappelé qu'aux dernières élections municipales, quand M. Mennucci a attaqué M. Jean-Claude Gaudin sur son âge, c'était les premiers à faire les vierges effarouchées pour dire que c'était scandaleux de dire de telles choses. N'empêche qu'ils les disent quand même aussi. Et puis si... on met en exergue mon âge, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de qualités, que le seul problème, c'est mon âge.
Bon, alors, vous n'êtes pas le seul à vouloir soutenir Macron.
Bien sûr.
Certains, dissidents, c'est pour ça que je bute sur le mot, certaines personnes qui traditionnellement soutiennent la droite, cette fois-ci ont décidé de soutenir Macron. La droite avec Macron, c'est l'association dans laquelle on retrouve notamment M. Robert Assante, que nous avons reçu ici même, un habitué de la dissidence. Quand on a su que vous rejoignez, que vous souhaitiez être candidat à la candidature, ça va être compliqué, pour les législatives, Jean-Claude Gaudin vous a qualifié de dissident également.
Je lui ai répondu.
Et qu'est-ce que vous lui avez répondu pour les auditeurs ?
Alors. Un dissident, qu'est-ce un dissident ? C'est quelqu'un qui est en dehors de son parti. Or, le jour où ce mot dissident est venu sur les radios, sur les journaux. J'ai rappelé que j'avais été désigné par l'UDI le 28 juin comme candidat officiel de l'UDI. Donc, de ce fait, pour que je sois dissident, il lui fallut que l'UDI ne me désigne pas comme candidat. Donc, je ne suis pas dissident. Je n'étais pas dissident.
Qu'est-ce que vous pensez de l'UDI, de Jean-Christophe Lagarde en particulier, son président? Ça manque de cohérence, peut-être, quand même. C'est-à-dire que ce ralliement à Fillon, on a quand même l'impression, regardez ça d'un peu loin, que c'est surtout les investitures qui guident la conduite de ce... Il n'y a pas d'adhésion vraiment
quand au programme de Fillon. Quand vous regardez les déclarations de Jean-Christophe Lagarde, avec qui j'ai beaucoup d'amitié, il a dit, lorsque M. Fillon a eu quelques problèmes, et pas des petits problèmes, il a dit l'UDI ne soutiendra pas M. Fillon. C'est bien ce qu'il a dit. Mmh. Pas trompé.
Oui, tout à fait, oui.
Voilà. Bon, j'ai pris acte. Bon, il a raison. Ensuite, les Républicains ont dit à l'UDI, si il n'y a pas de soutien, on revoit la liste des candidats aux législatives. Et la liste est passée de 67 candidats UDI à un peu plus de 92, c'est bien ça? Donc, la négociation du centre, c'est la négociation qui est une négociation, entre guillemets, alimentaire.
Ça ne vous décourage pas définitivement d'appartenir à ce parti avec ce que vous venez de dire? Vous avez simplement mis entre parenthèses, mais vous êtes toujours quand même dans cette famille?
Non, je me suis mis en congé de l'UDI.
D'accord.
Officiellement, d'ailleurs.
Vous ne souhaitez pas y réadhérer, quoi qu'il y arrive?
Je me suis mis en congé de l'UDI.
Un congé dans l'inconscient collectif, c'est limité. Un congé juste après les législatives, vous allez revenir après dans la maison mère?
Comment c'est un congé? Un congé, il y a parfois des congés qui durent vitam aeternam.
C'est un retrait. Hein, vous avez peur des mots?
Je me suis mis en congé. Ensuite, je verrai comment l'UDI gérera l'après-présidentielle.
Je rappelle que les centristes vous ont désigné, on revient toujours à cette circonscription détenue aujourd'hui par Marie-Arlette Carlotti.
Absolument.
Et qu'ils ont fait volte-face, puisque maintenant ils soutiennent M. Morenne, qui est le maire du 6-8.
Qui est le maire de Bagatelle.
Et qui compte sur les législatives pour s'imposer comme successeur de Jean-Claude Gaudin. Vous n'avez pas réussi à trouver un terrain d'entente avec M. Morenne?
D'abord, je ne discute pas avec M. Morenne. Si je discute, c'est avec M. Jean-Claude Gaudin. C'est lui le maire. C'est lui le patron, c'est lui qu'il devait y avoir une discussion. Or,
vous l'avez eu cette discussion?
À ce jour, pas du tout.
Vous avez demandé à l'avoir cette discussion?
Pas du tout. Je me suis à ce moment-là, j'ai fait ma acte de candidature. L'UDI a confirmé ma candidature avec une déclaration. Monsieur Jean-Claude Lagarde est venu à Marseille. Et si vous reprenez quand même les coupures de presse, vous verrez en très gros, l'UDI soutient Maurice Dinocera contre M. Yves Morenne. Vous l'avez vu ça?
Ça, c'était avant.
Mais c'est avant. On parle des législatives, là.
Oui, oui, oui.
Donc, et il m'a désigné candidat. Ensuite, il y a des accords nationaux. Ces accords nationaux, on vient d'en parler. Les Républicains ont donné à l'UDI, non pas 64 circonscriptions, mais 92, ou 93, ou peu importe, mais plus de 90. Je ne fais pas partie de ces candidats. Et de plus, avant que la liste soit officialisée, j'ai moi-même demandé mon congé de l'UDI parce que je ne pouvais pas soutenir M. Fillon, comme je vous l'ai dit. Donc je ne pouvais pas, en ne soutenant pas M. Fillon, espérer être retenu comme candidat.
Alors quel est le problème avec Morenne? Parce que Jean-Claude Gaudin ne tarit pas d'éloges à son sujet. Il le présente parfois même quasiment
comme
son successeur, hein, comme son dauphin. Alors les dauphins, on sait, c'est joué sur les plages.
Moi, je vais vous dire, Monsieur Morenne n'a jamais gagné en son nom. En ce qui me concerne, j'ai gagné depuis que je suis élu, depuis 2001 exactement. Tous mes combats, ce n'étaient pas des combats faciles. En 2001, dans un secteur qui était complètement à gauche, puisqu'il comprenait le 2e arrondissement, le 3e arrondissement et une partie du 1er. Michel Dary était le conseiller général sortant. Vice-président du département, député européen, avec tout l'armada et la force la puissance du département et du président Guérini. Je l'ai battu. Ensuite, ce secteur a disparu. On m'a donné en compensation, entre guillemets, c'est le préfet qui a pris la décision, le secteur de la Blancarde. Je ne connaissais pas. J'ai travaillé, c'est en 2004. En 2008, il y a des élections municipales et législatives et cantonales. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Guérini est candidat au municipal dans ce secteur. Donc il met toute sa puissance, il en avait, pour essayer de gagner ce secteur. S'il gagne le 4e et 5e arrondissement, il est maire de Marseille. Je me présente le même jour au cantonal. Et M. Guérini me met comme adversaire le président du CRIF, Clément Yana. Et si vous regardez, j'avais dû les regarder, les commentaires de l'époque, c'était, ça va être difficile pour M. Guérini de gagner. Par contre, Dino Serra sera largement battu par M. Clément Yana, président du CRIF. M. Muselier, Bruno Gilles. Et je suis sur la liste des municipales aussi. Font le score de 50,50%. Et pas 51%. Même jour, même bureau de vote, cantonal. Donc là, c'est facile. Je fais 55%.
Maurice Dino Serra, on ne va pas faire tout l'historique.
Non, mais il faut en parler. Donc ça veut dire par là que je suis bien placé dans ce secteur depuis.
Vous pensez être mieux placé pour gagner ce secteur?
Et vous savez, je sais aussi, mais enfin, que malheureusement, je n'en ai pas la preuve, sinon je vous la porterai ici. Je sais qu'un sondage a été fait par la mairie, qui n'est pas diffusé, pour lequel je suis, bien entendu, je suis à l'intérieur du sondage. Et on me dit que je suis très, très, très bien placé. Mieux placé que le maire de Bagatelle. Si tel n'était pas le cas, il y aurait longtemps que l'on m'aurait appelé, on m'aurait dit « Bicou, regarde un peu. Tu as vu où tu es? Alors tu ne vas pas nous emmerder.
Alors,
tu as laissé le petit. »
Comment vous expliquez le mutisme de Jean-Claude Gaudin qui refuse de vous donner une explication? C'est quoi? C'est de l'ingratitude? C'est blessant?
C'est de la politique. Hein.
C'est de la politique parce qu'on a reçu...
Il se dit peut-être, ce couillon, autant il gagne. Alors même que je ne me fâche pas avec lui.
Alors il y a peut-être une petite difficulté, vous n'avez pas l'ambition de devenir maire de Marseille.
Pas du tout.
Bon. Par contre, l'idée, on le voit, et Jean-Claude Gaudin ne le cache pas, l'idée c'est de propulser Yves Morin, de lui donner un poids politique dans toute la ville pour mener cette bataille, la gagner. Et donc là, en entravant cette mécanique, ce lancement, cette rampe de lancement vers peut-être la mairie centrale, Vous allez peut-être faire obstacle au dessein politique de cet homme.
Dites-moi, ça n'a pas fait plaisir à beaucoup de monde aussi, à côté, ses amis? Vous voyez pas que ses amis sont en train de lorgner cette 5e circonscription, se disant, autant ils vous en débarrassent.
Vous avez reçu des soutiens en ce sens de la part de... D'autres personnalités, Renaud Muselier,
non,
ou des proches de Renaud Muselier,
Monsieur
Guy Tessier, ou proches de Guy Tessier.
Pas du tout.
Vous n'avez reçu de soutien de personne
de
aujourd'hui.
Personne.
Alors par contre, ça envoie, hein, je le lis, ça a été publié partout, donc en parlons-en. Bruno Gilles, ce fameux SMS qui, en parlant de vous, dit « s'il ne se sent pas bien avec nous, il s'en fait greffer une belle paire, excusez-nous. » Et il vient dire à Gaudin, à Vassal et moi, qu'il quitte la majorité municipale et départementale. Vous n'avez pas peur d'être mis au banc comme ça en disant « maintenant ça suffit, vous n'êtes plus dans notre majorité ». Vous assumez
problème. Moi, même si on me dit que je ne serai plus dans la majorité, je voterai toujours à bulletin vert pour les délibérations de M. Jean-Claude Gaudin et je soutiendrai avec force et puissance Martine Vassal, qui est une très grande présidente du département et pour lequel j'ai beaucoup d'admiration.
La Grande Tchatch, l'émission du Ravi sur Radio Grenouille.
La Grande Tchatch, le Ravi, avec nous aujourd'hui Maurice Dino Serra, Michel Guéraud.
Député, vous qui avez toujours travaillé en politique au niveau local et avec fierté, c'est une envie de quoi? De prendre des responsabilités à notre niveau, de terminer brillamment une longue carrière politique? Qu'est-ce qui vous fait envie dans ce mandat et dans cette responsabilité-là?
Alors, je vais vous dire, on en a parlé, là je suis en plein sur les présidentielles. Mm-hmm. Ensuite, une décision sera prise.
Non, on ne va pas parler par litote, Maurice Dinocera. On a parlé des présidentielles. Parlons maintenant des législatives. C'est ce qui vous vaut d'ailleurs la remarque de Bruno Gilles et d'autres. Donc, allez-y.
Si je suis candidat aux législatives, je vous le dirai en priorité à vous ici. Moi, je m'en fais. Hein. Bon, c'est dans pas longtemps.
Donc, vous n'êtes pas candidat. Vous êtes potentiellement, vous pouvez ne pas être candidat. Prendre tout ça sur le coin de la figure sans, et in fine, ne pas être candidat.
On verra. Laissons le temps au temps. Laissons le temps au temps.
Alors, député, plein de gens disent que ça ne sert plus à rien d'être député, le pouvoir il n'est plus là.
Moi, je crois que les députés, si j'avais, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie, j'avais la chance d'être député, ça peut arriver. À ce moment-là, moi, j'axerai surtout mon rôle sur les gens de mon secteur, de ma circonscription.
Mais attendez, député, ça vote la loi, c'est pas une élue municipale, c'est pas à vous que je vais apprendre
ça.
Non, attendez.
On peut voter la loi, on peut voter aussi des grands travaux payés par l'État dans le secteur, on peut aussi payer la construction de logements dans le secteur, la L2 par exemple, c'est l'État.
Oui, mais là c'est trop tard pour vous. Là.
Non, mais il y a peut-être d'autres, la qualification du Jarret. Il y a beaucoup de choses qui dépendent de l'État et où le député peut à ce moment-là se battre. Moi, par exemple, quelque chose que je voudrais me battre, c'est pour les animaux. Oui, pour les animaux, parce que je considère que c'est un message important qu'il faut faire passer. Les personnes âgées ont des animaux. Il faut trouver... il faut aider la SPA, avec un président qui fait beaucoup de travail. C'est un acte aussi très intéressant, très important.
Vous avez vu que Fillon défend aussi les animaux.
C'est pas un petit, quelqu'un
comme Bruno Genzana qui est centriste et qui, lui, défend un Fillon, selon vous, qui peut paraître très à droite, n'est pas gêné pour ça. Comment se fait-il que vous actiez ce divorce?
On est deux caractères différents entre Bruno Genzana, que j'adore, qui est un ami, et moi. On a deux actes différents. Moi, je considère que M. Fillon n'est pas le candidat que le centre peut soutenir. S'il le soutient, il le soutiendra sans moi, puisque là, j'étais bien clair. Je n'ai pas attendu beaucoup de choses.
On a quand même l'impression, Maurice Dinocera, que, bon, pour reprendre l'expression de Michel, vous n'êtes pas, vous ne serez pas dauphin, mais vous en avez la peau. Tout glisse sur vous. Les propos de Bruno Gilles vous laissent indifférent. L'indifférence de Jean-Claude Gaudin vous indiffère également. Bruno Genzana est un excellent ami. Vous êtes très centriste.
Eh oui, bon, vous savez, j'ai horreur de faire du mal aux gens. Quand on m'en fait, écoutez, je dis, ils ont péché.
On peut gagner une législative, ou prétendre en tout cas à se présenter à une telle élection, sans être un tout petit peu saillant.
Si j'ai gagné au cantonal trois fois, dans des endroits différents, dans des secteurs qui n'étaient pas des secteurs de droite, comme certains, c'est que j'avais quand même quelques qualités de terrain. Et vous savez, si je pars à une élection, croyez-moi, je suis un bulldozer et rien ne m'arrêtera.
Vous avez des pressions aujourd'hui ?
Non, aucune. J'ai pas de pression, j'ai pas de discussion.
Alors pourquoi il y a autant de déclarations dans la presse sur votre probable candidature ?
Non, mais ils font beaucoup de déclarations, mais moi je n'en fais pas. Quand M. Bruno Gilles m'attaque, je lui dis, bon Bruno, j'ai tort de m'attaquer, parce qu'après tout, on a bien travaillé ensemble. Dans le 4e, 5e arrondissement pour le dernier municipal, j'apportais ma pierre à l'édifice. Maintenant, effectivement, ces attaques, je les conçois comme quelque chose qui dit que je suis peut-être dangereux pour eux.
Le cumul des mandats, vous êtes déjà au département, vice-président.
Oui.
Vous avez une fonction à la mairie. Oui. Si vous étiez élu député,
bien sûr,
ça ne serait pas un déchirement de renoncer à un mandat local
Mais ça peut être un déchirement, mais ça peut être aussi... c'est normal que l'on ne cumule pas trop de mandats. Moi, je suis contre le cumul des mandats. S'il peut y avoir qu'un mandat, je dirais qu'il ne faut qu'un mandat.
Vous êtes contre le cumul des mandats.
Vous en avez deux.
Attendez. Présentez peut-être un troisième.
Dites-moi, je suis le seul à avoir deux mandats ?
Oui, non.
Ah non. Non, mais attendez. Vous en avez deux. Citez-moi le cas d'un élu qui n'a qu'un seul mandat.
Attention, c'est le système de défense de Fillon avec les emplois familiaux.
Ah non, mais c'est pas bon. Non, mais attendez. On me dit, je cumule deux mandats. Je n'ai que deux mandats.
Vous pensez qu'effectivement, il serait bon qu'en France, on cumule beaucoup moins de mandats ?
Oui. Oui.
Parce que beaucoup disent non, c'est bien, au contraire, ça, ça, alors moi, il faut avoir un ancrage local, oui, national.
Oui, ça, j'avoue aussi que là, ça, ça porte quand même à discussion. Un maire, si on dit il est simplement maire, il n'est pas député ou sénateur, je pourrais dire aussi, mais il est aussi à Paris, il les défend comment ? C'est une réflexion. Hein ? Par contre, si on est député, conseiller départemental, adjoint au maire, effectivement, ce n'est pas complémentaire.
Pour la compréhension des électeurs, vous avez dit tout à l'heure que vous vous estimez comme toujours faisant partie des majorités municipales, oui, et départementales, y compris si vous vous présentez pour les législatives,
oui,
que vous souteniez Jean-Claude,
oui,
Gaudin, que,
oui,
Martine Vassal était,
oui,
une présidente merveilleuse. En même temps, en soutenant Macron, vous êtes avec Christophe Masse, qui lui passe son temps à critiquer le mode de gouvernance de Jean-Claude Gaudin.
Mais il a tort, moi je ne critique pas. Je veux dire, Christophe Masse, tu as tort, Jean-Claude Gaudin,
c'est
de très
bonnes choses. Qu'il y ait de la confusion dans l'esprit,
bon,
des électeurs.
Il faut quand même
on est contre
il faut quand
ici,
même qu'on
on est
se
pour
rappelle, et c'est une leçon d'histoire, mais une, un rappel de l'histoire, que M. Jean-Claude Gaudin était l'adjoint de Gaston Defferre, et que ça n'empêchait pas de voter différemment aux législatives ou aux présidentielles. Vous vous rappelez de ça ?
Et très longtemps, hein, ça a été le plus,
ça fait
le
rien.
Plus jeune.
Non, mais ça fait rien, oui, ça fait rien. Il faut comprendre aussi que dans la majorité municipale, il y a aussi Mme Narducci, qui n'est pas obligatoirement de la même sensibilité politique que...
Qui a quitté le Parti Socialiste.
Non mais... Qui est au PROG. Mais enfin...
Et quand le Front National, dont on parlait tout à l'heure, et qui marque, enfin à Marseille, il risque d'y avoir un vote à nouveau pour la présidentielle FN très élevé.
Oui, ça, je le déplore.
Et alors, quand ces élus-là disent, mais regardez, effectivement, ils font semblant de se disputer, mais ils sont ensemble, en fait, c'est droite et gauche, ils se partagent le pouvoir, ils font la même politique, c'est de la connivence, etc. Vous leur répondez quoi ?
Qui, au Front National ?
Oui, quand ils disent ça ?
Je ne leur réponds même pas parce que je ne veux pas répondre à des gens qui
prennent l'exclusion. Ils ont des électeurs qui se posent ce genre de questions.
Oui, ils ont des électeurs.
Qui se posent ce genre de questions.
Mais attendez. Vous le balayez, cet argument ? Ça n'a pas de
sens. D'abord, c'est faux. Au conseil municipal, il n'y a pas... ensemble la droite et la gauche, puisque dans les grands combats qu'on se livre au conseil municipal, très souvent, la gauche critique nos réalisations, critique nos positions, et nous, on sait se défendre. Donc, il n'y a pas de problème. Au conseil départemental, c'est pareil. Lorsque nous faisons le vote du budget, la gauche n'est pas d'accord avec ce que nous présentons.
Vous dites, c'est bien. C'est clair.
Et oui, c'est clair.
Et alors, ce que vous faites au niveau local, vous dites qu'il ne faut pas le faire au niveau national, puisque là, il faut faire et droite et gauche avec Macron. Il faut dépasser les clivages politiques traditionnels.
Si on peut dépasser les clivages politiques traditionnels, il faut le faire. On ne peut pas le faire au conseil municipal. On l'a fait, puisque n'oublions pas qu'il y a quand même des gens de gauche qui sont au conseil municipal. Ça prouve qu'effectivement, le clivage politique est là-dessus et bien étendu.
Mmh.
Il y a au conseil municipal des gens de gauche... M. Michel Dary, d'ailleurs, Mme Narducci, et puis d'autres. Donc, vous voyez que là, ça répond à la question.
Alors, avant d'en arriver aux dossiers locaux, on va parler de sport, puisque c'est une de vos délégations au Conseil général. On parle beaucoup, et c'est une première, on parle beaucoup d'abstention, de forte abstention pour ces présidentielles, toute cette confusion d'anciens, de nouveaux, qui se rejoignent les uns les autres. On arrive à un taux d'abstention qui est assez important. Alors, que dire et comment faire pour convaincre les abstentionnistes de se mobiliser pour ces présidentielles, Maurice Dino-Serin ?
Mais d'abord, je pense que les problèmes des affaires ont eu un effet néfaste sur l'électorat, qui ne se reconnaissait plus et qui, de ce fait, beaucoup chez M. Fillon. D'ailleurs, puis n'oublions pas que M. Fillon était à 26-27%, je pense, au mois de février. C'est bien ça ?
C'est ça.
Il est à 19 aujourd'hui, selon le dernier sondage.
19, selon le sondage, il est à 19, 17 ou 18. Mais il a sa base à 19. Donc, de ce fait, je tiens à vous dire que, effectivement, c'est normal, c'est logique. C'est logique que les gens ne se reconnaissent plus et essaient de trouver quelque chose qui puisse changer. Alors, au Front National, bien entendu, il y a toujours le cercle du Front National qui malheureusement, continue à augmenter. Hein. Le côté droite, parce que ça va être peut-être la première fois dans l'histoire.
De la 5e République.
Oui, oui, oui. Mm-hmm. Oh, oui, la 4e République n'avait pas ces problèmes. Mm. qu'on va retrouver peut-être, le Front et En Marche, qui n'est pas un parti politique.
C'est un mouvement.
Un mouvement. Donc il va y avoir et la gauche et la droite qui risquent d'être éliminées au premier tour. Donc ça prouve aussi le désarroi dans lequel se trouvent aussi les électeurs, qui ne savent plus. D'ailleurs, vous le voyez, puisqu'il y a, je crois, près de 40% de gens qui n'ont pas encore pris leur décision. C'est bien ça.
On ne vous a pas posé directement la question, on parle de probité en politique, oui. Est-ce que Fillon aurait dû, comme il l'avait dit pendant la campagne de la primaire, ne renoncer à sa candidature parce qu'il était mis en examen?
C'est une des raisons aussi qui m'a poussé aussi à quitter le centre qui a pris des accords avec M. Fillon. Il dit, la première chose, a-t-on vu le général de Gaulle mis à l'examen? Bon. Ensuite, il dit, si je suis mis en examen, je m'abstiendrai d'aller au présidentiel. Il met un examen, et là-dessus, il dit, il conteste. Il peut contester, puisque mis en examen, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas condamnable. Il n'est pas condamné. Mais pourquoi avoir dit, si je suis mis en examen, c'est-à-dire, même si je ne suis pas condamné, je ne serai pas candidat? Voilà.
On imagine un deuxième tour, vous avez vu, on imagine un deuxième tour Le Pen-Fillon. Vous restez sur votre décision, pas de Fillon et pas de Le Pen?
Non, pas de Le Pen surtout.
Vous appelez donc à voter Fillon?
Oui.
En Marche, dans les Bouches-du-Rhône, vous rencontrez un petit peu. Alors on a vu qu'il y avait les En Marche à droite avec Macron à Marseille. Tout le monde se mélange.
Vous savez qui vient le 1er avril à Marseille?
Au
Parc Chano.
Ben voilà, les auditeurs de Radio
Voilà, Bono, alors venez tous nombreux, vous mettez sur Internet, vous cliquez, vous donnez vos coordonnées, vous recevez par mail. Donc comme ça, vous serez bien accueillis. Et venez tous soutenir M. Macron. Il y aura plus de 10 000 personnes ce jour-là.
On voit que vous avez fait votre carrière dans la communication et dans la pub. Mais alors, question un peu moins liste. Premier meeting national de Macron dans les Bouches-du-Rhône. Et là, on a vu beaucoup d'anciens guérinistes qui accueillaient ce meeting-là et qui portaient ces équipes-là. On voit vous-même donc un petit peu... provisoirement, peut-être orphelin de votre famille politique, venir. On voit quelqu'un comme Christophe Maas aussi qui n'a pas d'investissement. Est-ce que Macron, dans le 13, c'est un peu la caravane pour récupérer les orphelins de
tous ceux qui ont des problèmes d'investiture.
Oui, voilà,
beaucoup,
pour parler clair.
Beaucoup, en tout cas, ont des problèmes d'investiture.
Est-ce que ça va au-delà? Dites-nous,
en 1989, lorsque M. Vigouroux a lancé les comités Vigouroux, il y avait des communistes, n'est-ce pas? Il y avait des socialistes. Il y avait des gens du centre et des gens de droite. Il a lancé le mouvement, il a gagné. Il a pris tous les secteurs de Marseille.
Vous faites un parallèle entre le...
Non, ça me rappelle. Je ne fais pas un parallèle.
Parce que personne n'y croyait, Vigouroux. Personne n'y croyait.
Quand j'ai lancé le comité Vigouroux en 88 et que je fais la conférence de presse donc à l'hôtel Beauvau et que je donne les résultats d'un sondage qui dit que les Marseillaises et les Marseillais préfèrent M. Vigouroux, tout le monde m'a rionné. Oui.
Mais vous ne répondez pas sur le fond, c'est-à-dire sur cet aspect un peu, allez, on additionne des gens qui ne sont peut-être pas faits pour être côte à côte.
Quand on veut réunir le maximum de personnes qui veulent adhérer à un projet, quelle que soit l'idée politique, c'est bien. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous êtes à gauche, vous n'avez pas le droit d'être avec M. Macron, ou parce que vous êtes à droite, vous n'avez pas le droit?
Maurice Dinocera, l'émission est très hachée parce que, en fait, vous ne souhaitez pas répondre sur le fond. Aujourd'hui, siégez-vous qui parlez de probité, celle de Fillon, vous venez de le faire à l'instant, du manque de probité de Fillon. Siégez à côté des guérinistes au niveau local pour soutenir un candidat qui est à la fois de gauche et de droite, ça ne vous dérange pas?
Lesquels de guérinistes?
Maas, par exemple, est un ancien guériniste.
Monsieur Amiel.
Ils sont tous anciens guérinistes, ils ont été élus avec M. Guérini.
Il y en a qui ont quitté le navire un peu plus tôt que les autres.
Lesquels?
Beaucoup. Mme Carlotti a quitté le navire plus tôt que les autres.
Ah oui, Mme Carlotti, M. Pezet, c'est tout.
Patrick Mellucci aussi, il y a très longtemps qu'il a quitté le navire.
Il n'était pas au département. Mais enfin, on parle des gens du département, là.
Oui, mais enfin, de la classe politique locale.
Écoutez, parce qu'ils ont été guérinistes, cela veut dire par là qu'ils n'ont plus le droit de subsister, de faire la politique?
Je vous pose la question.
Moi, je vous dis, ça ne me gêne pas si les personnes ont une certaine valeur, une certaine probité. Sinon, pas de probité, ça me gêne. Sinon, pas de probité, ça me gêne. Moi, je suis très là-dessus, très dur là-dessus. Moi, c'est la probité, c'est important. L'honnêteté, c'est important pour moi. J'ai toujours été un homme honnête. Je suis un homme honnête.
Donc, des gens qui sont mis en examen, comme Karim Zeribi, qui rejoint Macron également, et dont, avec qui vous allez faire la claque le 1er avril au meeting, j'imagine.
Bon, il fera la claque. Vous savez, c'est pas moi qui oblige les gens à venir ou à partir. Hein. J'ai pas ce pouvoir. Moi, je suis là pour adhérer au mouvement En Marche. Le reste, tout ce qui peut arriver, vous savez, c'est dans tous les partis où il y a eu des problèmes. Il y en a eu à droite, à gauche, au centre, le partout. Donc là-dessus, c'est de quel droit je dirais à M. Zeribi, tu n'as pas ta place ici. C'est pas moi le dire d'abord.
Michel.
Alors l'émission va bientôt se terminer, mais j'aimerais on profite que vous soyez dans ce studio pour parler quand même de ce qui est votre fonction, vos fonctions. Hein. Donc adjoint aux grands événements, on est puis au sport pour le CG, et puis il se trouve que c'est la capitale européenne du sport. C'est quoi ça? C'est un coup de com ou c'est un peu plus que ça? Est-ce que vraiment ça va profiter cette capitale européenne du sport concrètement? Alors, d'abord, c'est à améliorer les infrastructures.
D'abord, c'est Marseille-Provence, capitale européenne du sport. Ensuite, vous rappelez que Marseille a été en 2013 capitale européenne de la culture. On a eu là-dessus des discussions en disant c'est n'importe quoi et tout. Puis ça a amené quand même beaucoup de choses. Les gens sont venus à Marseille, ont connu Marseille, ils sont revenus. Le tourisme à Marseille s'est beaucoup développé. Ça, c'est un fait réel.
Un peu moins ces derniers temps, mais allez-y.
Mais ces derniers temps, la conjoncture mondiale, la conjoncture sécuritaire aussi. Bon, là-dessus, le sport, parlons du sport. Ça permet, par exemple, nous allons avoir le Tour de France à Marseille avec une étape contre la montre, départ au Stade de Rome, arrive au Stade de Rome, alors que peut-être Marseille, capitale européenne du sport, il n'y aurait pas eu.
Mais ça, c'est de l'événementiel. Qu'est-ce qui va se faire et qui va durer? Qu'est-ce que c'est une politique sportive, c'est-à-dire sur le long terme? Marseille, par exemple, est régulièrement pointée du doigt pour son manque de piscine, par exemple. Être capitale du sport et ne pas avoir de piscine, est-ce que c'est cohérent?
Mais là, il faudra poser la question à l'adjoint au sport quand même, parce que je ne vais pas me substituer à lui pour répondre à cette question. Marseille, nous sommes en train d'étudier, je sais qu'il est en train d'étudier la possibilité de revoir le côté piscine, ça je le sais, Richard Miron me l'a dit. Là-dessus, Marseille, capitale européenne du sport, Marseille-Provence, capitale européenne du sport, va permettre aussi que les infrastructures soient plus adaptées.
Le conseil général va aider? De quelle manière et combien?
Le conseil départemental a donné 4 millions d'euros pour Marseille-Provence, capitale européenne du sport.
C'est suffisant?
C'est pas mal.
Et ça ne va pas uniquement aller dans des campagnes de communication
parce pas que du tout.
On alors, a reproché ça aussi à la capitale européenne de la culture en disant d'accord,
je
ça aide
dire,
le tourisme,
la présidente Vassal.
Pour les acteurs culturels, ouais, ça n'a pas été forcément
raison,
le
c'est
cas.
Bien,
donc là,
la question
c'est est-ce que les clubs, les infrastructures sportives vont tirer bénéfice?
Je vais répondre à votre question.
Voilà.
D'abord, pour la Marseille, Provence, capitale européenne du sport, le département donnait une somme importante. On veut quand même que cette somme-là.
Relative, 4 millions d'euros, c'est pas très important au niveau du département.
Attendez, 4 millions d'euros pour Marseille, capitale européenne du sport.
Oui.
Ensuite, il y a quand même 14 millions d'euros de budget du département pour le sport, qui est, je vous rappelle, le département des Bouches-du-Rhône et le deuxième département de France pour l'aide apportée au sport. On le dit pas assez. Pour le reste, n'oublions pas l'aide aux communes et les 100 millions d'euros par an, pendant plusieurs années, que donne le département pour l'infrastructure de Marseille. Vous le savez, vous rappelez de ça. Mais pour Marseille, Provence, capitale européenne du sport, la somme donnée par le département est une somme importante, très importante. Et cette somme-là, ce n'est pas une somme qui est donnée en disant « Voilà 80 millions d'euros, faites ce que vous voulez. » On regarde quelles vont être les manifestations. Il faut que ça serve aussi à tout le département, pas simplement Marseille. Mais ça, c'est pour les manifestations sportives. Le reste, en ce qui concerne l'aide aux communes avec les équipements, que ce soit les stades. Vous savez, j'ai inauguré le stade des Cailloles il y a quelques jours. Le département a donné une somme très importante. À Aix-en-Provence, nous avons fait au tennis, nous avons refait complètement les structures du tennis. C'est le département qui a donné une somme très importante. Dans la plupart des communes, le département donne une somme importante pour l'amélioration et pour l'équipement sportif.
On parle des fois du besoin, on dit du pain et des jeux.
Hein. Oui, c'est romain. C'est romain.
Alors je sais bien que la Phocée c'est plutôt grec, mais est-ce que à Marseille c'est pas un peu trop d'événements, un peu trop de coups de com, un peu trop pas assez de pain, pas assez. On revient. Alors vous n'allez pas vous substituer à l'adjoint au sport, mais effectivement il y a. Vous avez un regard, vous êtes bien placé pour vous rendre compte qu'il y a un certain nombre encore aujourd'hui d'insuffisances au niveau des infrastructures, qu'il y a des demandes qui s'expriment un peu partout pour avoir des équipements de meilleure qualité. Est-ce que là, vous dites vous aussi, oui, on n'est pas encore au compte, il faut faire des efforts.
Ah oui, je suis d'accord, il faut faire de sérieux efforts.
Et pourquoi ce retard encore?
Écoutez, ce retard, il ne vient pas d'hier ou d'avant-hier, il vient de plusieurs années.
Vous êtes là depuis 1995, alors dites-nous, racontez-nous.
Depuis 1995.
Vous êtes élu depuis 1995.
Je suis pour le sport, moi.
Oui, non, mais vous êtes élu depuis 1995. Vous avez une vision, une autopsie quand même de l'intérieur.
Peut-être que le retard accumulé pendant des années n'a pas permis d'être au niveau. N'oublions pas que nous avons quand même reconstruit un stade Vélodrome entièrement.
Loyer sous-évalué largement.
Il est en négociation, le loyer, vous le savez.
Il est en renégociation.
Voilà, donc c'est clair. Hein, nous avons, on peut dire du bien ou du mal du palais Omnisport, mais c'est quelque chose qui commence à fonctionner maintenant. Le stade de l'or qui a été terminé, qui permet d'avoir du rugby et de l'athlétisme. Le palais sport qui est en train d'être réactualisé. Je ne sais pas si cela est largement suffisant, mais je dis qu'au fur et à mesure, on avance. Ce n'est pas facile, parce que les finances des collectivités, ce n'est pas quelque chose d'important. Vous savez que la dotation des communes a été amputée de beaucoup d'argent par le gouvernement, ça vous le savez. Le maire le dit souvent, le président du département le dit souvent. Et tout ça, ça empêche d'investir. Maintenant, quand vous parlez, des manifestations, que ça fait beaucoup de... N'oublions pas que ça apporte aussi beaucoup de choses. Ça apporte de l'argent du travail aux gens qui créent des manifestations. Ça apporte du tourisme, parce que les gens viennent. Vous savez, par exemple, quand on a deux demi-finales de top 14 à Marseille, c'est plus de 100 000 personnes. Plus de 100 000 personnes qui sont là le week-end. Des 100 000 personnes, il y en a beaucoup qui restent à Marseille, qui prennent les transports en commun, qui vont dans les restaurants, qui vont dans les hôtels, et qui apprennent à connaître notre ville et qui reviennent. Et ça s'est toujours vu, et ça s'est toujours... On a toujours eu la preuve que ça apporte de l'argent à notre ville.
Justement, vous avez évoqué le top 14. On se plaint souvent à Marseille et dans le département qu'il y ait une espèce de monosport, c'est le football. Le rugby, c'est plein. Les dirigeants du rugby se sont plaints parce qu'il n'y avait pas beaucoup de moyens qui étaient mis en œuvre pour aider à l'émergence d'une équipe de rugby.
On a essayé...
Le volleyball est quasiment disparu de Marseille. Il y a énormément de sports comme ça qui vivotent un petit peu.
C'est pas à cause de la ville. C'est parce qu'aussi peut-être que les dirigeants n'ont pas géré...
C'est à cause des crédits, Maurice Nocera.
Des crédits? Alors, donnez-moi un exemple. Le rugby, par exemple.
Oui.
Le rugby. Il y avait le club phocéen, d'accord, qui a essayé de monter des équipes pour du 15. OK. Ça n'a pas marché, les problèmes entre dirigeants. La ville donnait, le département donnait. Le basket à Marseille, nous avons récupéré, nous prenons régulièrement l'équipe Fos-Provence. Ça marche très bien au Palais des Sports. Le judo... On a fait quelque chose de fantastique avec le judo, puisqu'on a eu les championnats de France. Le trial, on a le championnat d'Europe, le trial indoor à Marseille. On a l'Open 13, on ne peut pas dire que ce ne sont pas de grands événements, qui apportent la dynamique, qui apportent la renommée, qui apportent aussi de l'économie à Marseille.
Ce n'est pas des arbres qui cachent la forêt, parce qu'on a aussi d'excellents nageurs au club de Marseille, qui est très beau, oui. Mais derrière, je reviens aux piscines qui sont fermées, qui n'existent plus.
J'en ai parlé, je vous ai dit qu'on est en train d'avoir une grande réflexion dessus. Richard Mire est en train d'avoir une grande réflexion qu'il donnera, pour le prochain budget au mois de septembre. Richard Mire donnera les explications sur comment il voit... La rénovation et la reconstruction des piscines. Parce que là, c'est toute une philosophie qu'il faut revoir là-dessus. J'aimerais bien que vous l'interrogiez, d'ailleurs. Il vous donnera plus d'explications que moi, parce que Là-dessus, je n'ai pas le dossier piscine dans la tête. Mmh. Moi, je peux vous parler de ce qui se passe dans le département.
Mais le département ne va pas financer le dossier piscine.
Mais bien sûr qu'on peut financer. Bien sûr qu'il peut financer.
Alors, racontez-nous vos exigences quand vous financez, par exemple, telle ou telle enveloppe pour tel ou tel sport à Marseille. Quelles sont vos exigences?
Département, pas Marseille.
Oui, comme vous vous exigez.
Nous avons revu les critères. Les critères, c'est quoi? Je me suis aperçu, nous sommes aperçus lorsque nous sommes arrivés, qu'il y avait une différence énorme entre un club de même niveau à Marseille et un club de même niveau dans les Bouches-du-Rhône. Oui. Le même club touchait 25 000 euros à Marseille et 5 ou 6 000 euros à les Bouches-du-Rhône. On a revu complètement les critères. Complètement.
Juste une parenthèse, oui. C'est étonnant. Donc Jean-Noël Guérini favorisait Marseille au détriment du... On lui a longtemps reproché l'inverse, détriment des autres communes.
Moi, je vous dis les constats dont je me suis aperçu et que nous avons réactualisés. Donc maintenant, les services ont établi des critères bien précis en fonction du classement des clubs, du nombre d'adhérents et de la santé financière du club. Et là, maintenant, je pense, et je vous demande si vous le souhaitez, de voir les autres conseillers départementaux qui ne sont pas dans la majorité départementale, vous leur demanderez qu'on travaille. Nous voyons ensemble, je vois personnellement les élus, les clubs avec, c'est-à-dire que quand je reçois un club dans les Bouches-du-Rhône qui vient me voir pour une subvention, je le reçois avec le conseiller départemental. Je fais toujours ça.
Donc, il y a une impartialité aujourd'hui au département qu'il n'y avait pas hier.
Absolument. La première année, le budget était de 17 millions d'euros. J'ai fait économiser 3 millions d'euros. Pourquoi? C'est parce qu'il y avait des manifestations, des opérations qui, pour nous, n'étaient pas raisonnables ou compatibles.
Est-ce que vous pensez que la métropole, qui est un nouvel outil avec lequel vous devez travailler...
Je ne suis pas d'ailleurs la métropole.
Oui, d'accord. Mais Martine Vassal, par exemple, pense qu'à terme, peut-être, la métropole va absorber le département, qu'il va falloir imaginer une fusion un peu de tout ça, parce que ça devient compliqué.
Martine Vassal ferait une très bonne présidente de la métropole. D'ailleurs, elle est déjà une très très bonne présidente du département, parce qu'elle a fait un boulot considérable, croyez-moi. Je m'en aperçois tous les jours.
Pour l'instant, ça fonctionne, là, cette espèce de juxtaposition, les mairies, la métropole, le département. Non, dans vos fonctions, ce n'est pas une entrave,
ça marche, ça avance. Ce n'est pas une entrave, non.
On arrive au terme de cette émission, Maurice Dinocera. Vous êtes que vous le disiez ou non, parce que vous avez une prudence de sioux dans cette émission, vous êtes en bisbille un peu avec Jean-Claude Gaudin. On va vous laisser une minute. Si Jean-Claude Gaudin vous écoute, qu'est-ce que vous auriez à lui dire pour défendre votre candidature à la candidature pour les législatives? Une minute, allez-y.
Même pas. Je dirais en politique comme dans le sport, pour gagner, il faut prendre le meilleur.
On restera sur cette phrase, donc on pense que le meilleur, donc, selon vous, c'est vous-même.
Je sais pas.
Allez, on se retrouve le mois prochain avec un tout autre invité. Bye.
La Grande Tchatche, le Ravi, Radio Grenouille.